Vous écoutez France Culture.
I don't know of any program in Uganda.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde. Bonjour Marc.
Bonjour Florian.
Alors après ces quatre émissions consacrées à Internet, notre rendez-vous aujourd'hui, comme chaque vendredi, s'inscrit dans l'actualité internationale, une actualité consacrée à la situation en Iran et en Algérie, avec bien sûr l'Égypte en toile de fond et tout le monde arabe. Après la Tunisie, l'Égypte, exit le président Ben Ali, exit le président Moubarak. Les mouvements populaires ont eu raison de pouvoirs autocratiques installés depuis des décennies et depuis lors, la contagion ne cesse de s'étendre au Proche et au Moyen-Orient. On manifeste à Bahreïn, au Yémen, en Libye, des manifestations durement réprimées à des titres divers. La contestation touche également la Jordanie et le Koweït. On n'oublie évidemment pas l'Algérie et l'Iran, auxquels on va principalement s'intéresser ici à travers l'actualité de la contestation, mais aussi comme des cas d'école, deux pays, deux nations qui, à la fois de par leur histoire, leur population, leur économie, bien sûr, sont deux poids lourds dans cet ensemble régional. On en parle dans un instant avec Fariba Adelka, chercheuse au CERI, au Centre d'études et de recherche internationale, qui va arriver dans un instant. Ahmed Damani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris-Sud, un militant maghrébin des droits de l'homme, et vous êtes auteur, entre autres, de L'Algérie à l'épreuve, qui était paru chez L'Harmattan, c'est ça ?
Paru chez L'Harmattan.
Voilà. Et puis également La démocratie à l'épreuve de la société numérique chez Cartala.
Chez Cartala.
Et enfin, Ahmad Salamatian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous politologue, auteur de La révolte vert, la fin de l'islam politique, point d'interrogation. On verra si on peut enlever le point d'interrogation tout à l'heure. Qui était paru aux éditions de La Villa en 2010. Et puis enfin, outre le Journal de l'Europe présenté tout à l'heure par Marie-Christine Vallet en fin d'émission, on retrouvera également la revue de presse internationale par Cécile de Kervesdoué. Elle nous parlera de la Libye, mais aussi de ces miliciens qui ont débarqué depuis quelques jours sur l'île italienne de Lampedusa. Mais avant, et pour accueillir notre journaliste, le journaliste de Radio France, Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Florian.
Cette musique, Ezaï, la chanson de la révolution égyptienne, signée Mohamed Mounir.
Entre autres. Ils sont un collectif, ouais, avec lui comme star, comme référence.
Il y a qui d'autre avec ?
Je ne les connais pas tous, mais c'est vrai que c'est un collectif d'artistes plus ou moins connus en Égypte. Et Mohamed Mounir est la star, il est adoré des filles là-bas.
Ouais, c'est le symbole de cette vague aussi artistique, de cette expression artistique extrêmement forte, hein, c'est ce que vous me disiez, Ludovic Piétenu.
Oui, c'est une révolution où les gens se sont montrés extrêmement créatifs. On a vu des corps peints, des visages peints essentiellement, avec les drapeaux, hein, donc on peut faire référence au body art, lequel body art était aussi exercé avec ses corps allongés par terre. On avait des corps qui formaient des lettres, les gens se couchaient et formaient par exemple, ma prononciation sera forcément mauvaise, Echal, dégage, hein, c'est ça. Et ce même, donc là on a du body art toujours, et puis ce même Echal, dégage, était formé aussi avec des cailloux, donc là on a du land art. Donc il y a eu comme ça différentes formes d'expression artistique. Mmh. Et c'est ça, toute la générosité aussi de ce peuple égyptien, extrêmement fier de lui, désormais.
Avec une énorme joie de vivre, hein, vous nous le disiez, on l'a entendu dans les matins avec Marc Vincher au début de la semaine, lundi et mardi, c'était une des choses qui l'a particulièrement surpris, cette joie de vivre absolument gigantesque. Alors lorsque je vous ai appelé, Ludovic Piétenu, pour venir nous raconter un petit peu les coulisses de votre mission en Égypte, vous veniez de finir un petit peu, vous étiez, la pression descendait un petit peu et vous profitiez.
C'était le moment de détente.
C'était le moment de détente
avant
et
de partir.
Je vous ai trouvé... Vous étiez au pied des pyramides.
Voilà, je voulais les voir, hein, quand même. Histoire d'eux, comme on dit. Et puis c'était ce coucher de soleil formidable vers 5h30. Un moment traditionnellement plutôt romantique pour des milliers de touristes, 2-3 000 touristes chaque jour sur ces pyramides, sur ce site de Gizeh.
Et là, il n'y avait pas foule.
On était deux. On était deux à 17h30, 18h, moi et Gilles Gallinaro, le technicien de Radio France. Voilà, et en moyenne, en ce moment, 15, 20, 30 touristes C'est vrai que les marchands du temple, en ce moment, traversent une période difficile là, ouais. et ont hâte que ça revienne.
Ouais. Et ouais, ils vous disaient leur impatience quant à ce retour ouais. tant espéré des touristes.
Hein. Et ils s'interrogent quand ? Alors, il y a le Quai d'Orsay hier, on l'a entendu, qui autorise les tours opérateurs à remettre au catalogue l'Égypte. Il y a les vacances de la zone A la semaine prochaine, donc effectivement, les Français vont pouvoir commencer à retourner là-bas. Les Égyptiens attendent ça avec impatience. C'est le moteur économique. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce qui va réamorcer la pompe économique. C'est presque 4 millions d'emplois directs, je crois, le tourisme en Égypte. 3 millions et demi, 4 millions. Et puis, forcément aussi, des dizaines de milliers d'emplois indirects. C'est en 52, quand le roi Farouk avait été débarqué par les militaires, un grand-père d'un marchand de souvenirs que j'ai croisé à Gizeh lui a dit « ça avait mis un an pour revenir ». Voilà. Alors, sauf que le tourisme en 52 et le tourisme en 2011, c'est plus du tout la même chose. Les avions, en 4h30 de temps, sont repartis et vont déverser leur flot de touristes, à mon avis, sous peu.
Ouais, donc on peut s'attendre à ce que ça aille un petit peu plus vite oui. aujourd'hui. Alors aujourd'hui encore, il y a un couvre-feu en Égypte sur l'ensemble du territoire égyptien. Et vous me disiez que c'était un couvre-feu un petit peu étrange. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Tout le monde ne le respecte pas vraiment d'ailleurs.
Non, il est censé être scrupuleusement respecté dans toute l'Égypte de minuit à 6 heures. Alors c'est vrai que de jour en jour, il était réduit hein, d'heure en heure. Aujourd'hui, on est sur 6 heures comme ça, de minuit à 6 heures. L'armée veille à ce qu'il soit et souhaite qu'il soit extrêmement respecté. Mais à Alexandrie, par exemple, où je me suis rendu mercredi, il n'était pas du tout respecté. À 1h ou 2h du matin, il y avait encore des dizaines de gens dans les rues, les commerces qui sont ouverts. Tout se passe très normalement. Et puis les Égyptiens ont l'habitude de vivre assez tard, de manger tard. Et surtout en ce moment, de profiter extrêmement et de se réunir tous ensemble et de se retrouver et de célébrer tout ça. Ce qui va être le cas d'ailleurs aujourd'hui, où on attend une grande marche. Au passage, je parlais du tourisme, une grande marche pour dire « venez en Égypte ». Il y a un hashtag sur Twitter, comme on dit, un mot-clé sur Twitter qui est en train de se répandre là depuis 2-3 jours, qui s'appelle « Come to Egypt ». Donc vraiment, venez. Et cette manifestation aujourd'hui va être une adresse essentiellement à l'opinion mondiale, plus qu'aux militaires ou en interne. Quoi.
Des appels, des rumeurs, il y en a encore beaucoup aujourd'hui en Égypte. Il y a notamment une rumeur selon laquelle les Moubarak ouais. pourraient encore manifester.
Samedi, on parle de
ce
demain.
Ce week-end, ouais, demain. Ouais.
C'est une crainte, c'est une peur en fait. C'est vrai, mardi à Alexandrie, j'ai croisé quelqu'un qui me dit « Oh là là, je viens d'avoir quelqu'un au téléphone, au Caire, il paraît qu'il va se passer quelque chose de terrible cet après-midi, place Tahrir, etc. » Donc voilà, cette place Tahrir qui était l'épicentre de toute cette révolution, eh bien, elle tremble à chaque instant. Et c'est pour ça aussi qu'elle est extrêmement gardée. Et là, on revient au couvre-feu. Et c'est tout ce qui intéresse les militaires aujourd'hui. C'est de conserver ces 2-3 km carrés de rue autour de la place Tahrir pour éviter sans doute de nouveaux rassemblements. Sinon, même à quelques rues de la place Tahrir, on trouve des gamins à 1h ou 2h du matin qui vendent encore le meurtrier. Enfin voilà, et les chauffeurs de taxi qui cherchent du client sur le trottoir. Enfin, c'est la vie continue vraiment.
Et s'agissant du sentiment de la population quant à l'armée, est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui, et s'agissant de l'armée surtout?
Le sentiment à l'égard de l'armée, pour la population, c'est une extrême référence, enfin une extrême déférence plutôt. Enfin, elle est appréciée cette armée. Enfin, elle est en aucun cas jamais remise en cause par n'importe qui. Enfin, vous pouvez interviewer vraiment n'importe qui. Personne va remettre en cause l'armée. C'est presque étonnant parce que nous, vu de France, on aurait peur de l'armée au pouvoir. On se dirait, mais on n'en veut pas. Moi, c'est ce que je disais aux Égyptiens. Mais moi, j'aurais peur d'une armée au pouvoir. Et eux, non, surtout pas. Ils ont une extrême confiance. Ça y est, elle va transmettre les clés. Il ne faut pas avoir peur. C'est ce qu'ils vous disent.
Merci
vraiment.
Beaucoup, Ludovic Piétenu, pour ce retour d'Égypte. Vous étiez hier encore en Égypte. Ouais. Merci d'être passé dans nos studios dans Culture Monde. On va parler dans un instant de l'Algérie et de l'Iran, mais avant, on va accueillir Cécile de Cavazdoué. Bonjour.
Bonjour Florian.
Alors, vous allez nous proposer une revue de presse sur la Libye, entre autres, mais aussi sur Lampedusa. Vous revenez évidemment sur ces révolutions qui soulèvent le monde arabe comme un jeu de domino. Et tout au long, Cécile, vous avez remarqué dans la presse que ces manifestations se sont radicalisées et sont de plus en plus brutales.
Oui, tout au long de la semaine, évidemment, Florian, c'est particulièrement vrai. Ce matin, comme le résume le Washington Post américain, les révoltes arabes deviennent particulièrement violentes. Et le quotidien américain raconte les affrontements entre pro et anti-régime au Yémen, qui s'affrontent non pas à coups de slogans, mais à coups de pierres, à coups de coups de poing dans des échauffourées de plus en plus nombreux. Au septième jour de ces protestations anti-gouvernementales, difficile d'avoir des informations précises sur le nombre de victimes, confesse le Los Angeles Times, toujours aux États-Unis, parce que les manifestations sont finalement en train d'enflammer tout le pays. Difficile surtout d'avoir des informations précises sur la Libye. L'information filtre sur Internet, pourtant que le président Kadhafi n'a pas hésité cette nuit à envoyer l'armée contre les manifestants, faisant de nombreuses victimes. Information confirmée sur le site d'Al Jazeera qui donne la parole à ce manifestant de Benghazi, là où a commencé la protestation mercredi soir. Écoutez.
The police started shooting at everyone. And six of the protesters, they got killed. Right now, just right now. 5 minutes ago.
La police s'est mise à tirer à balles réelles sur la foule. J'ai vu de mes yeux au moins 6 personnes tomber raides mortes. Il y a à peine 5 minutes, confie cet homme anonyme au téléphone. Et la chaîne, devenue incontournable sur les événements du monde arabe, précise elle aussi, les informations sont très très difficiles à vérifier. Les images que le régime libyen veut montrer sont celles des pro-Kadhafi arborant des drapeaux verts. Mais sur YouTube, on trouve depuis ce matin des images bien différentes de drapeaux et de postes de police brûlés à Benghazi et à Al-Baïda, où la répression a été très très violente cette nuit. Images d'affrontements aussi dans les rues de Tripoli, images de feux, images de blessés. Il y aurait au moins 12 morts, écrit Al Jazeera, mais des membres d'organisations de défense des droits de l'homme, eux, 24 morts sur le site de la BBC. Alors ce matin, vous l'entendez, la colère se répand un peu partout, alors que comme à Bahreïn, on enterre les morts en Libye. Et dans les deux cas, les régimes tentent, tant bien que mal, de faire des concessions pour calmer les esprits. Kadhafi, au pouvoir depuis 42 ans, a ainsi promis de doubler les salaires des fonctionnaires, de relâcher 110 présumés opposants politiques. Mais la rage pour obtenir la liberté politique est plus vive que jamais. Et les posts Twitter en font l'écho. Elles semblent embraser tout le pays, même jusqu'à Tripoli, où une manifestation est attendue contre toute attente aujourd'hui.
Alors voilà de quoi mettre la diplomatie européenne bien mal à l'aise, Cécile.
Bah oui, en tout cas, c'est le titre que propose Le Temps en Suisse, qui rappelle, comme La Repubblica en Italie, qu'un accord douteux a tout de même été passé entre Rome et Tripoli pour lutter contre l'immigration clandestine. Et aujourd'hui, continue le quotidien italien de centre-gauche, bah on en récolte les fruits tout simplement, parce que l'Europe a bon dos d'applaudir aujourd'hui les nouveaux héros de la démocratie, ces révolutionnaires du monde arabe, alors que sur les côtes de Lampedusa échouent par milliers et depuis des années les victimes de toute une ère politique caractérisée par la collaboration directe de Rome avec le régime de Kadhafi et par l'indifférence globale de la société européenne. La politique laisse derrière elle un paysage de ruines sociales et de victimes humaines, dit La Repubblica, victimes de l'immigration libyenne que nous avons promu gardien de nos côtes. En échange, nous le rétribuons en l'approvisionnant en armes, des armes qui aujourd'hui se retournent contre démocrates. Voilà une question sur laquelle la presse européenne est encore une fois étonnamment silencieuse cette semaine, mis à part sans doute le Spiegel allemand qui ne cesse d'en parler de ces immigrés de Lampedusa. Des immigrés sont arrivés par milliers sur les côtes italiennes en provenance de Tunisie, mais pas seulement. Et les habitants de Lampedusa, comme ceux de toute l'Europe, sont finalement gênés aux entournures par leurs contradictions, confie le Spiegel. Faut-il aider ou faut-il ignorer ces clandestins? Qui sont-ils? Des Arabes désespérés à la recherche du fameux Eldorado économique européen ou bien d'anciens sbires des dictatures déchues? La seule question qui fait finalement l'unanimité, dit le Spiegel, c'est le manque de moyens pour accueillir ces gens qui arrivent en masse sur cette petite île. Et c'est l'échec patent de la politique européenne de l'immigration, ou plutôt du manque de politique commune d'immigration, écrit La Stampa en Italie. Et l'Union européenne continue d'être profondément divisée sur cette question, mal à l'aise, comme elle l'est finalement sur toute la question du monde arabe dont elle a soutenu, souvenons-nous, tous les dictateurs pendant des années. Mais le malaise n'est pas qu'européen, confie bien loin de là le pays, cette fois au Burkina Faso, qui s'interroge, comme de nombreux papiers de la presse africaine cette semaine, sur ces révolutions du monde arabe et surtout sur les suites, sur l'après. Parce que, dit le pays, quel que soit le motif que sous-tend cette ruée de la jeunesse vers l'Europe, il faut reconnaître qu'il y a un véritable problème. Tous ces jeunes Tunisiens quittent le pays au moment même où celui-ci, plus que jamais, a besoin d'eux pour amorcer une nouvelle phase de son développement. Faire cette frange valide de la population jeune doit occuper toute la place qui lui revient dans les changements qui s'amorcent. La propension des jeunes au départ prouve finalement que les autorités de transition tendant à rassurer les populations n'ont pas encore produit les résultats escomptés. Il y a donc un énorme défi à relever à ce niveau. Il s'agit finalement ni plus ni moins que de repenser le vieux rêve du monde meilleur qui n'est finalement jamais aussi loin que l'on croit.
Merci beaucoup Cécile de Carvesdoué. On vous retrouvera évidemment la semaine comme chaque semaine dans Culture Monde tous les vendredis pour une revue de presse hebdomadaire. On parle maintenant de l'Algérie et de l'Iran. La situation de ces deux pays et la nature de leur régime sont évidemment très différents. Mais au-delà, en deçà de ces différences, il y a également quelques traits communs qui caractérisent l'ensemble de ces mouvements contestataires, qui ne sont pas sans rappeler d'autres grands moments de contagion contestataire, à la fin des années 60 pour les démocraties occidentales, la fin des années 80 pour les pays du bloc communiste, puis la grande vague démocratique de l'Amérique latine. Le vent souffle donc, le vent de l'histoire souffle maintenant au Proche et au Moyen-Orient.
Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time
bien sûr, Bob Dylan, les temps changent. Voilà, alors pour certains d'entre nous, pas tous, belle époque. Bonjour Farida Dechra, donc vous êtes anthropologue, Florian le rappelait, directrice de recherche aux séries. Votre dernier livre a paru « Être moderne en Iran » et la modernité ne va pas être l'un des moindres sujets autour de notre table. En face de moi, Ahmed Darpani, économiste, politologue, militant maghrébin des droits de l'homme. Me dites-vous, vous êtes aussi maître de conférence à l'université Paris-Sud. Et puis, à ma gauche, si j'ose dire, Hamad Salamatian, vous aussi, politologue. Alors, vous êtes, vous, un intellectuel, mais aussi un militant de longue date, au temps du chat. Déjà au temps de cette musique, Bob Dylan, je ne sais pas si on écoutait beaucoup Bob Dylan en Iran à l'époque. Vous étiez un militant et une personnalité de l'opposition démocratique, donc contre l'ancien régime. Aujourd'hui, vous êtes toujours un opposant, mais cette fois contre le nouveau, que vous avez accompagné une très brève période de temps. Vous avez des responsabilités dans le premier gouvernement issu de la révolution de 1979, puis auprès du président Banissad, dont l'existence fut brève, comme on sait. Et puis voilà, maintenant vous êtes un opposant. Et puis vous êtes également un libraire. En tout cas, les Parisiens le savent. Et puis vous êtes l'auteur, plus récemment, donc de la révolte verte vers la fin de l'islam politique. Alors, Florian, vous ajoutez qu'en effet, dans le titre original, il y a le point d'interrogation. On va consacrer une partie de cette conversation à savoir s'il faut le maintenir ou non. C'est aussi le spectre qui entre les observateurs occidentaux qui se disent l'islam revient par la fenêtre après être entré par la grande porte. Bon, pourquoi l'Algérie et l'Iran ? C'est pas l'actualité la plus chaude, évidemment. On parlait du Yémen, de Bahreïn, de Koweït. L'idée, c'était tout simplement, non pas hors cette actualité, d'ailleurs, il y a aussi des mouvements importants en Algérie et en Iran. Il y a encore une grande manifestation, je crois que c'est demain.
Samedi.
Ahmad Darmani, demain.
Et puis
en Iran, ça ne s'arrête pas. Alors, mais ce n'est pas tellement sur cette actualité-là. C'est d'abord parce que, bon, allez, avec les guillemets de rigueur, je veux dire, ce sont deux pays très différents, des systèmes très différents, des histoires très différentes, tout cela. Ça va de soi, mais ce sont deux poids lourds dans cette situation globale de bouleversement, de troubles, de révolte, de révolution. Vous me direz quel est le bon mot. Et précisément avant d'entrer comme ça, on va bien sûr parler de tous ces traits spécifiques, mais avec les experts, les spécialistes, mais aussi les gens de terrain que vous êtes tous les trois à votre ère, essayons un peu ensemble de faire le tour, non pas des traits communs, mais des éléments forts en commun de pourquoi maintenant ? Pourquoi, Florian Delorme vous le rappelait, il y a eu la grande vague fin des années 60 pour les Occidentaux, fin des années 80, chute du mur de Berlin, les dominos du bloc ex-communiste soviétique, l'Amérique latine ensuite. Voilà. Est-ce qu'il faut dire trivialement, maintenant c'est le tour du Proche et Moyen-Orient ? Tiens, je vais démarrer par ma gauche. Ahmad Salamatian.
Vous faites référence un peu à l'histoire.
Mais on en parlera beaucoup.
De l'Europe, d'Amérique latine et maintenant le Proche-Orient. J'ai l'impression que c'est une marche vers ce que j'appellerais la transition démocratique qui a commencé en Europe de l'Est, je veux dire la Grèce, et l'Europe, l'extrême Ouest, l'Espagne et Portugal, il y a 40 ans. C'est enchaîné par la suite en Amérique latine et après même par les pays de l'Est. Et j'ai l'impression que ça commence l'ère de cette partie de Proche-Orient et de Maghreb et du monde islamique musulman avec l'Asie du Sud-Ouest qui était un peu à la traîne de cette marche dont le point le plus important, c'était la sortie des sociétés traditionnelles avec des moyens de contrôle social et politique traditionnels sur la base de hiérarchies patriarcales traditionnelles. Ça, c'est fini. Pour des raisons du fond, a précédé à cette transition ou la volonté de transition démocratique trois autres transitions de première importance. Et c'est pourquoi peut-être, après une période où on se basait sur l'identitaire seulement et des analyses essentialistes, il faut retourner vers la primauté de social, politique, économique et culturel. Le mouvement de fond, c'est qu'on a assisté à une transition démographique. L'Iran était le précurseur. Les autres ont suivi. Le taux de fécondité qu'il y a 30 ans était au-dessous de 3,8 et tombé maintenant pour moins de 2. Pratiquement, l'Égypte et l'Iran, d'une certaine manière, sont pareils. Et c'est étonnant. Il y a une transition, qu'on le veuille ou non, patrimonial. Les patrimoines ne sont plus constitués de la même manière que dans le temps. Il y a une transition plus importante au point de vue de ses effets, socioculturels. Les familles monocolisées se sont nées, la société s'est atomisée, l'individu est né dans le monde musulman, on s'est affranchi du patriarche, du clan, de tribu, et on est rentré dans une autre société. Et culturelle, la révolution technologique moderne a fait que les pouvoirs en place ne peuvent plus endiguer et contrôler l'imaginaire de leur population. Ces imaginaires libérés sont rentrés de cette manière-là dans l'histoire.
Ahmed Salvatier, là je vous interromps. Vous avez prononcé un mot qui va me permettre, hop, on va me faire une transition extrêmement facile, pardonnez-moi, vers Farida Adelkhad. Donc la modernité, c'est évidemment le titre de votre livre. D'ailleurs, je sors une phrase de son contexte, hein, vous m'en pardonnerez. Vous écrivez, c'est dans la préface, vous parlez d'un changement social. Alors, c'est en Iran, et c'est dans un autre contexte, c'est vrai, mais largement autonome de la sphère politique. Et je trouve que cette phrase sonne bien pour votre point de vue. Voilà, on fait ce premier tour d'horizon global de ce qui, non pas change, mais est en train de changer sous nos yeux. Farida Adelkhad.
Je suis plutôt un Iran pour ce qui se passe ailleurs, donc je suis beaucoup plus focalisée sur la société iranienne, excusez-moi.
Mais
je ne suis pas très savante. Mais en même temps, ces événements montrent qu'il y a beaucoup plus de relations entre ces pays qu'on ne l'aurait pensé, qu'on l'aurait imaginé, puisque la vague s'étend de Tunisie à l'Égypte, de l'Égypte en Libye, et puis Bahreïn et les autres pays. Et bien sûr, l'Iran, qui n'a pas cessé depuis maintenant une trentaine d'années. Donc, les changements à Matsalmatian, on mettait à juste titre l'accent sur les moyens de communication qui sont un moyen qui a permis de développer d'autres formes d'action, de présence, d'expression qui n'existaient pas dans le passé. Changement de génération, puisqu'il a fait allusion à ce qui est transition démographique. Changement de génération, donc changement aussi d'expression. Moi, je pense que ces mouvements-là, on aurait pu le voir si les Américains n'étaient pas intervenus en Irak, aussi en Irak en 2003. Parce qu'il a un peu étouffé dans l'offre le mouvement qui existait déjà dans cette société et qu'on voit bien son incapacité. Et là, effectivement, si je peux faire une transition, il y a de l'ordre interne l'évolution de ces sociétés, mais aussi de l'ordre externe. Regardez ce qui se passe aussi sur l'international, dans l'absence aussi des Américains, si vous voulez, des alliances entre des pays qui veulent aussi faire fi de cette présence et de ce contrôle, finalement, qu'ont les Américains sur cette région. Donc, il faut peut-être d'une certaine manière articuler ce qui se passe, ce qui est l'évolution interne, et puis aussi ce qui est l'incapacité de l'Occident et des États-Unis à vouloir aujourd'hui couvrir les débats d'expression dans ces sociétés.
Ouais, et à regarder d'un œil un peu plus ouvert cette région du monde. Mais ça, on va bien sûr y revenir. Ahmad Darmani, alors, on a traversé Quelqu'un et la Méditerranée. L'Algérie, c'est un cas particulier, puis c'est aussi partie du tout.
Oui, un cas particulier, mais qui a déjà quand même une expérience de transition démocratique à la fin des années 80, et qui s'est soldée par une guerre civile, justement parce que l'arrivée au pouvoir prévu ou attendu des islamistes a fait que l'armée arrête le processus électoral et qui a donné ensuite des violences que l'on connaît, c'est-à-dire des centaines de milliers de morts, des milliers de disparus, des blessés et puis surtout une société particulièrement meurtrie par ces 10 années. Donc, par conséquent, il y a cet élément-là qui me semble très important. Donc, il y a eu des tentatives en Algérie, à la suite des émeutes d'octobre 88, donc de cette transition. Alors, depuis les années 2000, évidemment, ce qui arrive, c'est que à partir du moment où la violence est quelque peu, devient un peu limitée, la société commence à véritablement sortir et à revendiquer ce qu'elle revendiquait déjà auparavant. Donc, par conséquent, à partir des années 2000, on a évidemment... Alors, le mouvement d'émeutes en Algérie, il date des années 2000. Il ne date pas d'hier. Les émeutes n'ont pas cessé. C'est tous les jours, et dans les plus petites bourgades d'Algérie, c'est des jeunes qui sortent dans la rue, qui revendiquent, qui ont un logement, qui ont un emploi, qui, disons, des conditions de vie décentes. Voilà. Donc, cette question-là me semble très importante à noter par rapport au reste des pays arabo-musulmans.
On va y revenir, d'ailleurs. Mais précisément, bon, ce phénomène électoral... c'est aussi ce qui a déclenché le fait électoral, c'est ce qui a déclenché ce qui s'est passé. On y entend, on y va tout de suite. Juste un peu de musique, je vais vous expliquer pourquoi les musiques que vous allez entendre au fur et à mesure. Dommage qu'il n'y ait pas d'image. Tout le monde aurait vu le visage réjoui de Farida Al-Elkha. Écoute, alors, peut-être certains de nos auditeurs pensent qu'on s'est encore trompé d'époque, là, puisque vous avez entendu le célèbre slogan au Chili il y a longtemps, en l'occurrence transcrit en persan, et qui accompagnait alors ce grand mouvement de protestation suite à aux élections, disons pour le dire moins, pour dire le moins, légèrement... légèrement manipulé par le pouvoir en place pour une victoire éclatante au premier tour du président Ahmadinejad se succédant à lui-même. Alors, on va vous donner la parole, Fariba. Ce moment-là, donc, illustre deux choses, et dans le prolongement de ce que disait auparavant Ahmed Darmani. À la fois l'importance du fait électoral et le fait que on triche avec mes voix n'est plus supporté. Donc l'élection, enfin le suffrage universel, l'élection fait partie maintenant de la revendication citoyenne. Faut-il le dire comme ça ?
Oui, en effet, je crois que c'est un peu la leçon qu'on peut en tirer, c'est l'importance des élections dans la société iranienne qui donne naissance à ce grand mouvement, le mouvement vert. Mais permettez-moi, je sais que je vais me faire absolument honnir et détester par tous les gens qui m'écoutent, surtout mes collègues qui travaillent sur l'Iran. On ne sait toujours pas le résultat. Je veux bien qu'on parle de fraude, mais quel était exactement le résultat ? La fraude existait, tout le monde le sait. En Iran, ça n'est pas une nouveauté. De toute façon, 30 ans de pouvoir autoritaire, personne ne parlerait que de fraude de toute façon, mais... On ne sait toujours pas les résultats. 2 ans après, quand même, ça fait 20 mois après, on ne sait toujours pas est-ce que Moussavi aurait pu rentrer dès le premier tour arriver au pouvoir ou pas. Donc ça, c'est déjà une chose quand même. Il faut peut-être, il faut pas aller trop vite sur maintenant la question de fraude, surtout que si on regarde maintenant les mobilisations, je me tourne aussi vers Ahmad pour effectivement parler sous son contrôle. Si ce qu'on regarde les manifestations de février, donc l'anniversaire de la révolution, le nombre des gens qui étaient sur la rue montre aussi une certaine, je dis bien une certaine, pas absolue, popularité de pouvoir. Que ces choses-là sont organisées, je veux bien, mais enfin, on ne peut pas organiser des centaines, des milliers comme ça, des dizaines de milliers comme ça sur la rue très, très facilement. Donc ça, c'est une chose. Et deuxième chose, vous parlez des élections. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est dans ce climat, effectivement, de tension, de crise politique très, très importante qui montre qu'on n'arrive pas finalement à en sortir, c'est quand même la République qui est en train de gagner parce qu'après tout, les manifestants continuent à être présents. Ça veut dire une expression de contestation dans la société iranienne qui est vive, qui est présent, qui est très, qui ne cède pas le pas. Et de l'autre côté, bien sûr, un pouvoir. Et on a cette impression d'un équilibre entre un 12 février organisé par le régime et un 25, ça veut dire un 14 février, organisé par son opposition. Ça aurait été trop beau de montrer un équilibre entre les deux, mais on voit bien que le pouvoir qui a les moyens d'intervenir, effectivement, use de ses prérogatives et liquide un peu l'opposition.
Ahmad Salvatien.
Après avoir parlé de problèmes du fond, j'aimerais bien arriver au niveau où il y a la difficulté. C'est la représentation politique de ces mouvements de fond. Et là où on voit très bien la différence de ces différents pays. Il y a des pays qui ont eu déjà l'expérience des mouvements révolutionnaires, idéologisés considérablement. Dans le cas algérien, c'est l'idéologie nationale, d'une certaine manière, qui a, à mon avis, escamoté pendant un certain temps, à partir du moment où ils étaient usés, de laisser la politique démocratique qui se rapproche avec l'immédiat et le quotidien et le pluralisme de se manifester. En Iran, c'est l'aventure islamiste qui, n'oublions pas, c'est pas seulement islamiste, il est calqué totalement et complètement sur les modèles des pays de l'Est. L'organisation de pouvoir en Iran aujourd'hui ressemble terriblement à ce qui était la Russie pendant des années. Et permettez-moi de vous dire, une des avantages les plus importants des régimes totalitaires issus de l'expérience stalinienne, c'était leur capacité fantastique de faire des mises en scène de fêtes populaires. De dernière 1er mai avant la chute de mur de Berlin, jusqu'à la chute de Ceausescu, jusqu'à ce qui vient de se passer vendredi dernier à Téhéran, où une manifestation avec tous les soutiens de pouvoir réussit à faire de foule devant les images de la télévision, dont une grande partie n'échappe pas à la règle d'une vision de Photoshop et la reconstruction des photos. Et le lendemain, une manifestation réprimée, empêchée, où à Téhéran, plusieurs centaines de milliers de personnes viennent braver le pouvoir en risquant leur vie, le pouvoir qui n'hésiterait pas même à voler les victimes des manifestations et les victimes et les martyrs des uns. Vous savez, après, il y a eu un problème en Iran. Un étudiant, je vous donne le parcours, un étudiant sunni, étudiant de la faculté des arts, dans les arts dramatiques, qui rencontrait le religieux des contestataires chiites, l'ayatollah Montazeri, et présenté par les Bassides comme un membre de Bassides après avoir été tué par quelqu'un qui lui a tiré en direct dans la rue, pour les opposants, dont la particularité depuis les débuts des manifestations d'il y a depuis 22 mois, c'est qu'ils sont pathétiquement non-violents. Alors ça, c'est quand même quelque chose. Et le pouvoir n'hésite pas. De même manière qu'on a assisté hier soir à Tripoli, des bandes de foule du président Kadhafi en même temps qu'ont tout 17 personnes. De même manière, ce qui s'est passé en Iran, et moi sur le problème de la fraude, je me base uniquement sur le comportement du pouvoir iranien. Un pouvoir qui a la majorité de la population n'a pas besoin pendant 22 mois d'interdire même à ses manifestants de faire des petits anniversaires de solidarité avec ce qu'il considérait jusqu'à là la cause de la libération islamique pour la Tunisie et l'Égypte.
Si vous permettez, Ahmed Salamatian, je vous interromps. Alors, on a abordé là des sujets qui, là aussi, vont très largement converger sur l'Algérie, mais parfois à front renversé. Au fond, vous le rappeliez d'ailleurs tout à l'heure, tournant des années 80-90, un processus électoral en cours est brutalement interrompu, si j'ose dire, avec l'assentiment et le soulagement général du reste du monde, parce qu'il allait donner la démocratie, allait accoucher d'un pouvoir démocratiquement élu qu'on n'aimait pas. Mais c'est un point de départ, vous en avez fait mention. La suite.
Bah écoutez, la suite, c'est que, en fait, on a eu la guerre civile. La question qui me paraît être essentielle, c'est que on a très très vite, et on continue, je crois, de le faire, d'associer démocratie et élections, ou de réduire la démocratie aux élections. Alors, le cas est un cas d'espèce, c'est-à-dire qu'en fait, voilà un pouvoir qui, à la suite d'émeutes, décide d'ouvrir le champ politique, donc il permet le multipartisme, une constitution avec multipartisme, une presse, notamment écrite, l'a laissée libre, relativement libre. Mais par contre, pour ce qui est des médias lourds, notamment la radio et la télévision, elle reste encore sous monopole politique. Et surtout, il continue de contrôler tout le jeu politique. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il va faire par rapport au multipartisme? C'est qu'il va susciter la création de partis qui donnent un émiettement du champ politique et qui va brouiller le champ politique algérien. Et en réalité, ce brouillage du champ politique algérien donc va se poursuivre. Et on a encore aujourd'hui, vous voyez, en fait, le problème qui se pose aujourd'hui en Algérie, le champ politique est totalement brouillé. En fait, on n'a pas de partis véritablement qui ont un ancrage dans la société parce que le pouvoir a tout fait véritablement pour bloquer toute espèce de dynamique, effectivement, démocratique à ce niveau-là. Voilà donc la question qui me paraît être essentielle, c'est que, concernant l'Algérie, c'est que ce mouvement un peu qui devait emmener vers une, disons, une transition démocratique, les tenants du pouvoir n'ont jamais voulu aller dans ce sens-là. C'est la réalité, elle est là. En fait, le pouvoir détenu par l'armée et les services de sécurité n'ont jamais voulu aller jusqu'au bout, effectivement, de cette transition. Et on est encore jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, jusqu'à au jour d'aujourd'hui, encore dans cette situation-là, en fait, il y a un blocage à ce niveau-là et qui, évidemment, on ne sait pas du tout dans quel sens ça va aller.
C'est un petit morceau musical, vous allez comprendre.
هاني اليوم نحكي مع اسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاحزاب 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف ولا توحوش شوف الحاكم بالمتراك
سجنال connu, très connu d'ailleurs désormais, El General on l'appelle. Hein. Alors c'est un rappeur tunisien, mais ils arrivent de partout. Alors c'est en effet un champ de circonstances, je crois, ce rap s'appelle, j'en suis presque sûr, mais Raïs El Beled, le président du
Raïs El Beled.
Raïs El Beled. Le président du pays dans tous les sens du mot d'ailleurs, typiquement dans cette vague de créativité qui accompagne d'ailleurs tous ces mouvements. Très intéressant, hein, on le voit en Iran, on le voit. Et je vous le dis par parenthèse, toutes ces musiques, on ne va pas pouvoir les écouter toutes que j'avais choisies là, pour vous accueillir, on les a trouvées entre autres sur un site créé par une militante des droits humains, Bahreïni. Elle a 24 ans, son nom m'échappe à l'instant, mais je vous le redonnerai plus tard. Elle est entrée en politique et dans l'action humanitaire, alors depuis Bahreïn, mais elle a beaucoup voyagé depuis, en écoutant du hip-hop kurde pour accompagner les revendications kurdes. C'est-à-dire, mais c'est formidable en même temps, cette richesse et ce mélange. Ça aussi, c'est une grande nouveauté, cette communication horizontale au Proche et au Moyen-Orient. Ahmed Salamatian.
À partir du moment où le monopole de pouvoir en place sur les communications a sauté grâce à l'Internet, grâce à YouTube, grâce à des technologies modernes. La pluralité qui existe dans chaque pays et dans l'ensemble du monde musulman a la possibilité de s'exprimer plus. Et du fait même que c'est la jeunesse qui s'empare de ces moyens d'expression, ça prend les couleurs de jaune de l'ensemble du mouvement musical international. Aujourd'hui, en Iran, la musique, les différents petits films de vidéo, des chanteurs traditionnels qui prennent même la voix de modernité, ça va même pour transformer les chants religieux passionnels chiites qui ont de temps en temps des rythmes de la musique moderne. C'est devenu un espace d'expression de la contestation sociale. Et c'est une des particularités du mouvement et une des difficultés des mouvements politiques traditionnels qui ont aussi, comme le pouvoir d'une certaine manière, n'ont pas la capacité de sentir la jeunesse de ce mouvement. Je crois que le mouvement, par ses modes d'action et modes d'expression, il est d'une certaine manière en train de bousculer même les hiérarchies politiques d'un côté ou de l'autre.
Bref, pour gravir les montagnes, il va falloir savoir manipuler les souris. C'est un très mauvais jeu de mots. Ahmed Rahmani, c'est le sujet de votre dernier article, d'ailleurs. Bon, c'est quand même pas les NTIC, pour jargonner comme tout le monde, qui font les révolutions à la place des gens. Mais elles y contribuent largement, c'est ça ?
C'est un outil de mobilisation extraordinaire. L'article que j'ai écrit dans le cadre d'un ouvrage, à vrai dire universitaire, « Économie politique de l'Internet », je terminais par cette phrase concernant le régime tunisien, parce que c'est celui qui, où en fait la censure de l'Internet est allée le plus loin par rapport au Maroc et l'Algérie. Je disais que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, en fait, parce que justement il y a cette censure de l'Internet, le pouvoir tunisien va faire en sorte que l'Internet va devenir un extraordinaire outil de mobilisation sociale en Tunisie. Ça a été le cas. Ça a été le cas, d'ailleurs, on a tendance un petit peu à l'oublier. Le premier martyr de l'Internet en Tunisie, c'était il n'y avait pas de blog à l'époque, mais c'était un cybernaute, ou comment on appelle, qui s'appelait Zouhir Yahyaoui, qui avait effectivement tenu une page sur Internet, et qui ensuite a été mis en prison pendant 2 ans, et qui a sorti de prison, vu en fait les sévices. Il est mort très jeune, il est mort, il n'avait même pas 30 ans. Donc c'était déjà prémonitoire. Donc voilà un peu. Moi je pense qu'il y a cette nouveauté. La nouveauté, c'est effectivement les moyens de communication nouveaux. Et cette jeunesse, en fait, en Algérie, la jeunesse représente à peu près 40% de la population, qui se saisit sans aucune espèce de complexe de ces outils-là. C'est ça la nouveauté. Et qui, autre nouveauté, qui entre de plein pied dans la mondialisation au niveau de la communication. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Tout à l'heure, je parlais du monopole qu'exerce le pouvoir sur les médias radio et télévision. En fait, il est justement contourné par cet outil nouveau qu'est l'Internet. Et c'est ça la nouveauté et qui fait que, moi, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur le fait que ça va transformer, mais c'est un outil qui est aujourd'hui utilisé de façon très, très consciencieuse par les jeunes, notamment. On l'a vu en Égypte, mais on le voit aujourd'hui dans tous les pays arabo-musulmans.
Précisément
Oui, en fait, moi, je suis entourée de deux Ahmed, c'est bien ça.
Oui, mais
donc, comme disait Ahmed de ma gauche, je crois qu'il ne faut pas se faire aussi des illusions. Et c'est là, vraiment.
Mais ça joue quand même vraiment un rôle. Enfin, on le voit dans votre livre,
d'ailleurs. Naturellement, tous ces moyens d'expression jouent un vrai, véritable rôle. Mais on voit aussi, et si vous voulez, la portée négative de ça. Par exemple, ça ne décharge absolument pas les leaders d'opposition de se laver les mains, de prendre des initiatives. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec le mouvement vert, en fait, c'est effectivement cette hétérogénéité des demandes, des revendications. Par exemple, si vraiment on s'arrête sur la situation iranienne, il y en a qui veulent la fin du régime, les autres qui veulent le départ d'Ali Khamenei, les troisièmes qui veulent juste le départ de Mahmoud Ahmadinejad. Et en enfin les quatrièmes qui veulent juste arriver au pouvoir de Mousavi. Interroger s'il n'est pas pris en charge par les hommes politiques, ça a des effets absolument négatifs de désencouragement, désillusion sur le mouvement vert, qui fait qu'au moment ou à un autre, ils vont se désolidariser. Et donc, le mouvement, ils rentrent chez eux et puis voilà, tout est fini. C'est, donc, très beau dans un premier temps, mais il faut aussi continuer, si vous voulez. L'action politique, ce n'est pas un moment précis. Exact. C'est sur une longueur, si vous voulez.
Mais pardon de vous interrompre, mais précisément, ce qu'on essaie de photographier en ce moment, on ne pourra évidemment pas ni parler de tout, ni dégager les grandes perspectives politiques qui vont être très importantes, et on y consacrera les vendredis qui viennent. Mais dans ce rapport aux nouvelles technologies, indépendamment du moyen de mobilisation, il se joue quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que non seulement je peux communiquer avec mon voisin, mais je peux communiquer avec mon pays, avec la terre entière. Quel rôle a votre... Et l'Iran, d'ailleurs, je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais a une place éminente dans la bloguitude, le cybermonde, par le nombre, précisément, de ces cybernautes ou ces internautes. Donc, il y a quelque chose qui se joue de très important, là, non ?
Non, tout Farida. À fait. Je crois Farida, qu'on, oui, bien sûr, mais je crois qu'on a vraiment mis l'accent sur l'importance d'Internet en disant que finalement, les pays de la région, de par cette génération qui manipule bien cette technologie, ont des rapports bien plus profonds qu'on ne le dise. Donc, ces pays de Moyen-Orient se ressemblent beaucoup plus qu'on ne le pense, finalement. De par ces interactions entre sa jeunesse et à travers cette moyen de technologie. Et encore une fois, Marc, moi, j'ai véritablement un problème. Je viens d'arriver d'Iran. L'Internet, autour de soi, quand on regarde, c'est une personne sur 10 qui arrive à avoir les vitesses qu'il faut pour y avoir accès. Donc, il y a des laissés pour compte aussi de cette nouvelle technologie et cette, comment dirais-je, les weblogs, etc. Mais enfin, il faut peut-être aussi un peu relativiser. Et puis ensuite, ces internets, ces moyens de technologie ont créé aussi d'autres formes de relations et d'interactions avec le pouvoir en place également. Pas seulement des relations entre la population, dans la société entre elle-même, mais aussi cette société avec le pouvoir. C'est des aspects qu'il faut prendre en considération pour comprendre pourquoi ça marche d'un côté, pas de l'autre, etc. C'est vraiment éviter d'aller un peu à la besogne et puis nos désirs pour la...
Ne jamais rien simplifier, vous avez bien raison. Hamad Salamatian.
Je crois qu'il
nous reste très peu de temps.
L'éclatement des moyens de communication, de contrôle de pouvoir, a permis le pluralisme de se manifester. Le pluralisme, nécessairement, ne s'indique plus dans les formes d'organisation politique traditionnelles. Aujourd'hui, c'est le comportement de pouvoir qui donnerait la forme et l'unité d'organisation beaucoup plus. Et c'est la capacité d'adaptation des pouvoirs à des nécessités incontournables de changement social et changement culturel qui décidera de l'avenir, de la forme que ça prendrait. Mais le mouvement est en marche, ou c'est par les révolutions ou par les compromis de réforme. Le pouvoir qui serait plus capable d'arriver vers le compromis, il pourra assurer mieux peut-être son avenir que celui qui se rédit, qui devient...
On va devoir s'arrêter là malheureusement. Mais écoutez, allez, un petit message pour finir.
آن خسخاشان که توی
Mais quoi, nos trois invités, Fariba Delkha, Ahmed Damani, Ahmad Salamatian. On va accueillir tout de suite Marie-Christine Vallée. Bonjour.
Bonjour Florian.
Voilà, on va parler de l'Europe qui suit de près les événements dans le monde arabe. Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne, est en tournée dans la région.
Oui, en Tunisie, où elle s'est rendue pour la première fois depuis le départ du président Ben Ali, Catherine Ashton a annoncé une aide de 258 millions d'euros, dont un versement immédiat de 17 millions, ce qui paraît insuffisant pour l'actuel ministre tunisien de l'Industrie. Mais dans le même temps, la Banque européenne d'investissement, la BEI, envisage de doubler les prêts qu'elle accorde chaque année à la Tunisie pour les porter à 1 milliard d'euros. Mardi, Mme Ashton sera au Caire. Elle proposera un soutien économique à l'Égypte et une aide pour préparer les futures élections égyptiennes. Et le Caire a déjà demandé à l'Union européenne de geler les avoirs de 7 hauts responsables égyptiens. On attend la décision. Par ailleurs, comme elle l'avait fait pour la Tunisie et pour l'Égypte, Catherine Ashton appelle le Yémen, Bahreïn et la Libye à éviter les violences contre les manifestants et et à dialoguer avec eux.
Et puis toute autre chose, les députés européens qui donnent leur feu vert pour une législation sur le brevet européen.
Alors c'est une nouvelle étape dans ce feuilleton, car depuis plus de 10 ans, on cherche à mettre en place un brevet communautaire, c'est-à-dire un titre unique valable sur tout le territoire européen pour protéger une invention. Il existe actuellement un brevet européen à côté du brevet national. Il peut être déposé dans l'une des 3 langues officielles, français, anglais ou allemand. C'est l'Office des brevets à Munich qui délivre. Mais pour qu'il soit valable, l'inventeur doit en demander la validation dans chacun des pays où il souhaite le faire protéger. Le traduire également dans chacune des langues, et tout cela a un coût. On a calculé, par exemple, que la validation d'un brevet dans 13 pays européens coûte 18 000 euros, dont 13 000 euros de frais de traduction. Et si l'on compare avec les 1800 euros d'un brevet américain, cela coûte 10 fois plus cher de déposer un brevet dans l'Union européenne qu'aux États-Unis, ce qui grève la compétitivité des entreprises européennes. Alors pour limiter ces frais, la Commission européenne a proposé que le brevet, une fois délivré, soit validé par les pays dans l'une de ces 3 langues officielles. Mais l'Espagne et l'Italie ont refusé cette formule et en décembre dernier, le brevet communautaire était encore bloqué. On a donc voulu sortir de ce blocage et 12 pays, dont la France, ont souhaité qu'une coopération renforcée, ce qui veut dire que le projet inclura les États membres qui veulent aller de l'avant. Cette coopération renforcée, le Parlement l'a adoptée cette semaine à une majorité, 471 voix contre 160. Mais ça n'est encore qu'une étape. Le Conseil des ministres doit maintenant donner son aval et la Commission européenne va avancer des propositions détaillées. Donc le brevet communautaire devra encore patienter.
Et puis l'Union européenne a fait le point sur le programme culture. 28 projets ont été mis à l'honneur à la conférence annuelle sur la culture en mouvement.
Alors ce sont des projets financés par les fonds européens pour la littérature, le théâtre, le patrimoine, l'art multimédia ou la musique. Ces 2 dernières années, par exemple, le Festival d'Aix-en-Provence a reçu près de 200 000 euros, notamment pour son Académie européenne de musique, où chaque année, de jeunes artistes lyriques viennent suivre des formations ou participer à des masterclass avec des professeurs venant de différents pays. De même que Jordi Savall reçoit des subventions européennes pour former des jeunes à la musique ancienne. Donc pour assurer la circulation des œuvres, l'Europe finance aussi des traductions littéraires ou des réseaux de résidences d'écrivains. Et dans le domaine du patrimoine, les fonds soutiennent actuellement un groupe de chercheurs qui travaille sur l'impact du changement climatique sur le patrimoine bâti. Les chercheurs devront d'ailleurs proposer des solutions. Donc ces projets sélectionnés réunissent des acteurs culturels de plusieurs pays. Ils doivent être transversaux. Ils reçoivent des subventions allant de 100 000 euros à 2,5 millions d'euros pour les projets qui s'étalent sur 5 ans. Et les fonds du programme culture prennent en charge la moitié du coût prévu. Les 50% restants doivent être trouvés par ailleurs dans des financements nationaux ou privés. Le secteur culturel et créatif intéresse beaucoup l'Union européenne car il représente actuellement 3% du PIB de l'Union européenne, le produit intérieur brut. Il emploie 5 millions de personnes et comme Bruxelles estime qu'il a un effet moteur sur les entreprises, on cherche à l'encourager pour répondre aussi à l'objectif 2020 sur la croissance et l'emploi.
Et puis la Croatie se rapproche de l'Union européenne, Marie-Christine Vallée.
Le gouvernement polonais espère que la Croatie pourra adhérer à l'Union européenne avant la fin de l'année et l'espère en tout cas pendant sa présidence, puisque la Pologne va prendre la présidence de l'Union européenne dans le prochain semestre. Mais il faut être prudent, car tant au Parlement européen qu'à la Commission, on estime que si la Croatie est tout près du... Et encore faire beaucoup de progrès dans la lutte contre la corruption.
Et puis pour l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen, on en saura un petit peu plus la semaine prochaine.
Oui, ce sera évoqué au Conseil Affaires Intérieures. L'entrée de ces 2 pays dans Schengen est prévue en principe pour le mois prochain. Mais la France et l'Allemagne y restent opposées. Et les 27 ministres de l'Intérieur en discuteront jeudi prochain.
Merci beaucoup Marie-Christine Vallée. On se retrouve la semaine prochaine. Un autre journal de la culture. Journal de l'Europe, évidemment, Marie-Christine Vallée. Culture Monde, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour des émissions consacrées à l'agriculture. Et à l'équipe de Culture Monde, Lucille Comeau, Mathias Mégy, Victor Massé, de l'Épinay à la technique, Bruno Gagnère-Fontani à la réalisation, Marie-Christine Closet.